Vous êtes bien dans l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier où je reçois Lignim sur le plateau. Connu pour ses portraits aux lumières colorées style cyberpunk, Lignim a su imposer son style dans la création photographique. Toujours curieux d'en découvrir plus, l'artiste montpelliérain est un vrai passionné au parcours très inspirant. Il a notamment collaboré avec AlphaCast, Alt236 ou ColasBeam. C'est pourquoi j'ai voulu vous partager son parcours dans ce nouvel épisode. Eh bien, salut Lignim et bienvenue sur Ça part de là.
Merci beaucoup Margot.
Je suis très contente de te recevoir en tout cas. T'es le premier photographe que je reçois, j'ai déjà eu un réalisateur, mais c'est vrai que là on va vraiment parler photographie, donc ça va être assez passionnant.
Quel honneur.
En plus t'es de Montpellier, donc ça fait toujours plaisir de recevoir des gens d'ici.
C'est encore mieux.
Vraiment, t'as tout le package là. Du coup, ça fait plus de 10 ans que tu fais de la photographie. Est-ce que tu peux revenir un peu au début, comment c'est arrivé toi dans ta vie la photographie?
Alors la photographie, c'est arrivé quand j'ai commencé à rentrer à la fac, donc j'avais 20 ans. Et en fait, c'est juste en faisant des photos de paysages. Donc je me souviens qu'on était parti dans les Cévennes avec mes parents et je bassinais ma mère en disant « Ouais, j'aimerais bien faire des photos de paysages, etc. » Donc elle me prête, elle daigne enfin me prêter son petit appareil photo compact. Et là, j'ai fait quelques photos et tout, donc qu'elle trouvait chouette. Bon, après, est-ce que ma mère disait ça par pure gentillesse ou c'était par pure sincérité, allez savoir. Mais bon, c'est que bah, ça a déjà planté la petite graine en disant bah, « Ok, t'es doué là-dessus ». Puis, au fil du temps, bah, j'ai commencé à m'approprier l'appareil photo, à faire des petits autoportraits, faire des petites expérimentations. Mais j'avais pas encore l'envie de vraiment m'y intéresser totalement. Enfin, moi au départ.
C'était un loisir, quoi.
Ouais, voilà, vraiment un petit loisir. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'illustration ou l'animation 3D. C'était deux corps de métier auxquels j'ai vraiment voulu m'orienter. Mais j'ai jamais eu la patience d'apprendre à dessiner. Je n'avais pas les moyens d'avoir le PC ou d'aller dans une école spécialisée 3D. Donc, je me suis focalisé sur des études de langue parce que mes parents ont dit non mais tu vas voir ça va t'apporter un métier qui rapporte, surtout ça, le côté financier, pas genre tu vas apprendre des nouvelles cultures, ouais. Tu vas apprendre à maîtriser les langues, non, juste ça,
t'auras des débouchés derrière, quoi.
Exactement.
Et ces passions là elles venaient d'où, la photographie, le design, tout ça? C'est parce que tu regardais peut-être du cinéma ou tu...
Disons, c'est drôle, c'est que c'est seulement à partir depuis un an et au fur et à mesure de là, cette année, que j'ai vraiment découvert pourquoi je me suis vraiment lancé dedans. Et juste par rapport au retour des gens. Donc par exemple, je sais que j'avais fait des photos de Colas Grasset, Colas Beam. J'ai eu beaucoup de retours pour comme quoi ils disaient « Mais c'est quoi? C'est une illustration ou c'est de la 3D ?» Et donc ça a rappelé mes petites frustrations que j'avais auparavant de ne pas savoir dessiner et de ne pas faire de la 3D. Et d'autres aussi, quand je présentais mes portraits, c'est dit, putain, on dirait un roster de jeux de combat. Ça, c'est parce que j'ai tellement grandi avec les jeux de combat, parce que j'ai un grand frère et ce jeu vidéo auquel on pouvait jouer à deux, c'était ça. Donc ça m'a marqué. Et puis aussi, le design, c'est que je regardais beaucoup les livrets des jeux vidéo, puis il y avait toujours des artworks, des illustrations. Je trouvais ça me touchait personnellement. Et le design, c'est parce que j'ai comme ça que j'ai découvert Photoshop aussi. Je faisais plein de petits dessins aussi, des illustrations, je suivais les tutoriels. Faut voir que ça a un petit peu marqué parce que je suis ultra marqué par les lignes, les formes géométriques, même si je suis pas un pro en maths non plus. Mais voilà quoi, c'est les petites choses que je me suis rendu compte que très récemment, alors qu'auparavant je faisais ça par pur réflexe. Je voulais vraiment mettre le doigt dessus.
Et à ce moment-là, du coup, comment tu te formes? Tu testes en prenant des photos? Comment tu apprends à manier le matériel, etc.?
Alors, la formation, c'est que j'avais fait une licence art du spectacle parcours cinéma. Donc, on m'avait prévenu qu'il y aurait plus de théorie que de pratique. Mais on a eu un excellent enseignant qui, lui, nous poussait à découvrir d'autres médiums, genre la peinture, l'illustration, même le cinéma. Tout simplement pour expliquer qu'en fait la photo s'inspirait des autres médiums pour créer ses propres œuvres. Alors par exemple, je me souviens très bien. C'est le premier jour. Il nous a incité à aller voir l'exposition sur le Caravage à Montpellier, au musée Fabre. Donc moi, je ne comprenais pas trop pourquoi il nous disait d'aller là-bas alors qu'on devait étudier la photo. Donc en y allant au musée, bah, effectivement, j'ai pris ma claque, redécouvert Caravage, qui est un artiste tout simplement sublime dans ses compositions, avec ses retables immenses, une maîtrise de la lumière. Et quand on revenait dans son cours, il utilisait justement ça pour dire qu'il y a un courant au tout début de la photographie qui s'appelle le courant pictorialiste, où c'est en fait des anciens portraitistes peintres qui ont bifurqué vers la photographie, parce que c'est la photographie qui piquait leur travail en quelque sorte. Et avec leur bagage de peintre, ils l'ont appliqué dans la pratique de la photographie, donc ce qui fait qu'on, dans leurs œuvres, on avait une petite inspiration, un petit côté peinture. Donc voilà, et puis après, la pratique, je l'ai eue en faisant avec un copain qui avait toujours le dernier matos, le dernier cri. Il s'en vantait un tout petit peu, faut le dire, mais il était ultra sympa de me laisser l'essayer. Et il m'avait montré la photographie studio de la plus belle manière qui soit. Donc il me dit, hey, tu vois le gros parapluie blanc là, regarde bien en face. Oui. Mais qui me le déclenche à pleine puissance. J'avais la marque du flash pendant 10 secondes. Mais après, c'est comme ça que j'ai découvert le studio. C'est des photographies studio. Ce qui me plaisait bien dedans, c'était juste le fait d'avoir une photo nette. Parce que j'avais la frustration, chaque fois on me disait ouais, tes photos sont floues, t'as pas la mise au point, etc. Donc ça, c'est un peu la frustration de débutant. Et je me dis ouais, photographie studio, c'est au moins je vais avoir la photo bien nette tout le temps. Puis au fur et à mesure, c'était vraiment pouvoir maîtriser la lumière depuis chez soi. Moi, mon côté gros chat qui aime pas du tout sortir en général, c'était parfait. Et après, au fil du temps, j'ai expérimenté moins de mon côté. J'avais pris du matériel, je pouvais pas faire du portrait d'autres personnes, donc, parce que chez moi c'était trop petit, donc je pouvais soit faire de l'autoportrait, soit des photos avec mes figurines.
Ouais.
Donc j'ai commencé avec la toy photographie, et après petit à petit j'ai commencé à demander à des copains, est-ce que je peux squatter ton salon pour toi faire des modèles avec des serpents, ça c'est vrai. Et après, quand j'étais en troisième année de fac, là, notre enseignant qu'on aimait bien, qui nous avait découvert plein de choses, il n'a pas été repris. Et j'ai cherché un stage et j'ai trouvé un photographe qui s'appelle Yannick Brossard, qui est spécialisé dans la photographie automobile, mais qui faisait aussi des portraits studio. Donc je suis allé le voir, je lui ai proposé mon portfolio. Et aussi, ce que j'aime bien dans ses travaux, c'est qu'il y avait une certaine chaleur, il y avait une humanité dans ses photos. Donc, il a accepté de me prendre pendant 2 semaines, que ça a été répondu sur un semestre. Il me disait, tu vas prendre des modèles et ça va être comme si c'était tes prestations. Tu vas leur réaliser des portraits. Moi, je pourrais pas être tout le temps là pour t'aider parce que j'ai du taf. Mais par contre, je serai là pour te faire un petit débrief ou limite t'aider si tu as besoin de problèmes avec le matériel. Donc là, il m'a laissé à disposition du matériel qu'à l'époque, moi, je pouvais pas me permettre. Donc c'était une superbe occasion. J'ai enfin l'espace qu'il me fallait. Donc là, je m'éclatais. Et là, je m'en souviens que lorsqu'il me faisait un retour sur les photos, il me dit... c'est marrant, on voit que tu commences à travailler un peu les couleurs, etc. Mais je trouve que tu te retiens vachement, mais vas-y, lâche-toi, rock'n'roll. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à m'éclater un peu plus. Et entre-temps, je commençais à apprendre la photographie avec les gélatines. Eh mes amis, c'est quoi la gélatine? Eh bien Fred, c'est très simple. C'est des feuilles plus ou moins opaques, colorées, qui permettent de colorier la lumière. Eh mes amis, voilà, appelez-moi pour toutes les imitations pitoyables de C'est pas sorcier. Entre-temps, il y avait le courant musical Synthwave, donc c'est courant musical qui rappelle les sonorités des années 80, que ce soit musicalement parlant, ou plus du cinéma, etc. Je me dis, il y a enfin un courant qui assume pleinement ce que j'aime. Parce que dire que t'aimes bien Terminator, Robocop, etc., t'es considéré comme un gros loser. Donc là, des gens qui assument enfin ça, je dis, ok, là je vais pouvoir faire mon coming out de photo. Et là, j'ai commencé à réaliser des photos plus personnelles, en allant un peu plus loin sur la couleur. Et aussi réaliser des effets directement à la prise de vue. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant. Il y a un petit côté art plastique. Je sais que là, c'est résumer 10 ans de photographie en quelques minutes, c'est comme un véritable exercice. J'espère que là, c'est pas trop, c'est pas trop énorme. Mais voilà, 10 ans de photo, je me dis, le temps passe tellement vite, accomplit tellement de choses. Il y a toujours le doute qui est présent, ce qui est normal. Et quand ça arrive, c'est parce qu'on a envie de se renouveler. Là, actuellement, au moment où on enregistre l'émission, je cherche à me renouveler justement parce que 2022 c'était l'année où j'ai utilisé le vidéoprojecteur et là je commence à avoir un peu marre de l'utiliser, j'ai envie de le laisser de côté et d'explorer d'autres voies. Donc toi Ludic du futur, si tu écoutes, je pense que tu auras trouvé la solution.
Justement, c'est une question sur laquelle j'allais revenir. En fait, dans ton travail, on voit une vraie patte artistique avec ses couleurs, ce côté un petit peu intimiste avec tes modèles. Et du coup, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es senti un petit peu bloqué dans ce format-là ? Là, tu dis que tu as envie de te renouveler. C'est sous quelle forme ? Avec plus de texture, peut-être ?
Ouais, c'est ça. Donc, déjà, avec les modèles, je m'en souviens que avant 2021, j'avais cette frustration du genre ok, bah, la lumière me plaît bien, mais j'ai un petit peu marre de voir des modèles un peu stoïques. Okay. J'aimerais bien que ce soit plus expressif. Et à chaque fois, je me dis, mais comment je peux y arriver ? Comment je peux arriver à faire ça ? Et surtout aussi, avec mes clients, comment je peux aider à les rendre un peu plus à l'aise ? Donc, pour le coup, c'est que bah, je me suis formé, j'ai trouvé un workshop de Peter Orley. C'est un photographe qui est un ancien mannequin. Et donc, lui, c'est devenu le meilleur portraitiste de New York. Et lui, avec son passif de mannequin, il enseignait bah, comment faire poser les gens.
Okay.
Mais c'est pas juste du genre, ouais, vous faites poser comme ça. Non, c'est plutôt, faut se mettre à la place de l'autre.
Pour les mettre en confiance et tout ça.
Voilà, quoi. Il faut discuter avec la personne, il faut la diriger du bout en bout et lui expliquer que bah, c'est tout à fait normal. Donc j'ai appliqué ça, puis aussi ce qu'il a rajouté dans son workshop, c'est dit, voilà, moi je vous ai dit mes techniques, maintenant il faut que vous trouviez la vôtre. Trouver votre voie, comment vous allez diriger les gens. Et donc je l'ai expliqué. Première personne à qui j'ai appliqué ces techniques-là, bah, c'était avec des streamers. Donc s'il y en a qui m'écoutent, si je parle de squinch, je pense qu'ils vont s'en souvenir. Donc le squinch, c'est le léger plissement des yeux. Donc c'est ce qui permet à l'image de transmettre une émotion. C'est comme si la personne était concentrée. C'est que de la mise en scène. Mais ça fonctionne nickel. Quand j'ai appris comment bien diriger mes modèles, j'ai regardé mes photos, je dis ok, par rapport à mes photos anciennes, là je trouve qu'il y a un peu plus de vie. Et là je prends davantage confiance en moi en disant ok, fais-toi comme ça, fais-toi comme ça. Mais il y a un truc assez drôle, c'est comme j'ai tellement l'habitude de travailler avec des gens qui ne savent pas poser, donc dans le milieu professionnel. Là quand je fais de mes séries personnelles, où là je fais appel à des mannequins, là, ils savent très bien poser. Là, c'est moi qui me retrouve un peu comme un con en disant bah, d'habitude, je parle beaucoup pour diriger. Là, ils savent où se trouve la lumière principale, comment poser. C'est pilote automatique.
C'est pas du tout le même style de collaboration, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça me fait toujours marrer. Et là, comme je dis actuellement, bah, j'ai envie de travailler sur la texture, retrouver le petit côté crasse-pouille de la photo. Donc là, j'ai trouvé quelques pistes. Et j'aimerais bien partir là-dessus pour le prochain. Voilà, le 2023, c'est le petit côté texturé de la photo.
Comme tu as commencé un petit peu à en parler, tu reçois pas mal de streamers sur ton studio, pas mal de personnes assez populaires sur le web. Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi ? Comment il t'en est venu à devenir un peu le photographe des personnes du web, finalement ?
Et c'est juste un doigt qui appuie sur un bouton. Hein. Ah, alors ça, c'est grâce à mon ami Romain Oulès, qui est mec en effets spéciaux, réalisateur et décorateur. Et c'est lui qui m'a dit, tu devrais photographier les vidéastes, parce que ce que tu fais, ça devrait leur plaire. Mmh. Et intérieurement, moi, je voulais photographier ces gens-là, parce qu'ils ont réussi à créer tout un univers, aussi des vidéos qui t'ont inspiré, ou t'ont fait découvrir plein d'autres choses, mais j'osais pas. Donc, et lui justement c'était la personne qui allait te pousser à le faire, et vu qu'il connaissait quelques personnes, il m'a dit vas-y, propose lui tout simplement. D'abord tu fais des collabs parce qu'il faut bien que tu te fasses ton portfolio. Ouais. Donc j'allais voir la personne, j'ai dit ouais, voilà, je me présente, je fais des photos comme ça. Donc je lui ai montré un peu mon portfolio. Et moi je m'attendais à ce qu'ils me disent ouais non, j'ai pas envie, merci bien, au revoir. Et finalement, la personne a accepté, elle a dit oui. Ah ok, et donc là, une autre pression qui est de, bah, faut que tu fasses maintenant une belle image avec cette personne-là, faut que tu la mettes bien en valeur, et petit à petit, bah, vu que cette personne-là connaissait plein d'autres, ils ont vu la photo que j'ai faite de lui, c'est comme ça qu'ils m'ont commencé à contacter, et ça fait effet boule de neige. Et là après, c'est vrai qu'au départ j'avais la sensation de ok, je suis en train de photographier quelqu'un d'assez famous, même si je regarde pas son contenu, je sais sa notoriété. Mais là, à force d'être habitué à bosser avec des gens de ce milieu-là, bah là j'ai appris à vraiment relativiser. Maintenant c'est des gens comme toi et moi, avec leurs défauts, leurs qualités. Donc il y a un côté un peu plus humain.
T'as désacralisé le truc un petit peu.
Ouais,
quoi.
Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus humain, surtout quand tu te rends compte que bah, même si t'as des gens, hommes ou femmes, ils sont ultra BG, eux aussi ne savent pas non plus comment poser devant la caméra. C'est vrai qu'avec les professionnels, c'est beaucoup de bonnes rencontres. Bah, comme, tout comme AlphaCast aussi, ça fait trois fois qu'on a travaillé. Donc la première, c'était été 2021. Donc il a découvert un peu comment je bossais, donc il a adoré. On a travaillé une deuxième fois où c'était sur une mise en scène où, inspirée du jeu vidéo Elden Ring. Et en fait, à ce moment-là, c'était la période où il commençait justement sa transformation physique.
Okay.
Parce qu'il disait qu'il souffrait un peu de l'obésité. Et donc, il a vraiment pris les mesures pour changer physiquement. Donc, au moment où on a fait les photos Elden Ring, ça se voyait pas trop, mais il commençait. Et après, c'était fin de l'été où il est revenu. Et là, j'ai vu qu'il avait vraiment changé physiquement. Donc, on a fait des photos... c'était marrant, c'était inspiration de l'animé Cyberpunk Edge Runner.
Okay.
Il m'avait montré une capture d'écran. Il me dit, tu crois qu'il y a moyen de refaire comme ça? Et j'ai dit, c'est drôle, ça reprend un peu le concept de ma photo de profil actuelle, avec une bande de lumière derrière. Et j'ai dit, moi j'ai envie d'explorer là-dessus. Et donc on a fait ces photos-là, et il y en avait une, c'est la première qu'il avait publiée lorsqu'il les a reçues. Il était magnifique, putain, la vache. Et, mais vraiment, je lui ai dit, ouais, franchement, tu la prends pas, je fais un ulcère, je fais un gros cri interne. Et je suis très content qu'il l'ait pris, parce qu'en plus de ça, c'est là où il s'est rendu compte que à quel point il avait changé. Et j'admire, franchement, j'admire sa démarche, parce que c'est vrai que maîtriser son corps, c'est quelque chose qui t'appartient. Et c'est vraiment... la chose la plus difficile à contrôler.
Tu parles un petit peu justement de ces influenceurs-là. Eux aussi, du coup, partagent ton travail sur leurs réseaux sociaux. Toi, ta notoriété, elle grandit aussi de ton côté sur tes pages à toi. Je voulais revenir un peu à tes débuts. Est-ce que ça a été facile pour toi, dès le départ, de montrer ton travail, même à tes parents, etc. Est-ce que la photographie, la partager, comme c'est ton regard à toi sur les choses, est-ce que c'est quelque chose de facile, en tout cas au début?
Alors, pas du tout. C'était très difficile parce que je suis quelqu'un de très exigeant, et aussi quand j'ai des photographies colorées, ce que je disais, inspiration années 80, j'assumais pas trop de dire ouais, voilà, c'est inspiration de Synthwave, Retrowave. Donc à l'époque, je m'étais labellisé photographe Retrowave. La pire erreur de ma vie. Parce que forcément, dans le beau pays, il faut bien se foutre des étiquettes. Et je m'en souviens qu'une fois, j'étais allé dans une réunion business, où t'as plein d'hommes et de femmes d'affaires qui sont là pour parler vraiment, créer du réseau professionnel. Et c'était un cercle fermé, fallait y aller sur invitation d'anciennes personnes.
Okay.
Donc ça fait un peu secte dit comme
ouais,
ça.
C'est clair.
Et il y avait une personne qui m'avait invité, et là t'avais une dizaine de personnes, et chacun se présentait en une minute. Donc fallait dire ce que tu faisais, ce que tu proposes, est-ce que tu recherches. Donc là, le gros timide qui est en moi, je imagine-le en train de transpirer à fond. Et là, de dire en plus, ouais, je suis photographe retro-wave, tout ça, je fais des photos en studio, colorées, et je cherche des labels de musique, des producteurs, parce qu'à l'époque, je cherchais plus du côté musical pour proposer mes services. Et le truc, c'est que il y a eu une bonne réception de ma présentation. Beaucoup de gens ont trouvé mes travaux superbes, mais ils ne savaient pas quoi en faire. ne savais pas comment faire. Je dis ouais, ok, c'est beau, mais sans plus, quoi. Et c'est vrai que j'aurais pu partir en disant ouais, c'est tous des cons, hein, c'est des mufles, etc. Mais au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas les bonnes personnes à qui je m'adressais, en fait. Si je faisais des photos, on va dire, plus corporate,
oui, c'est ça,
etc., ou du packshot, là, c'est sûr, ça les aurait intéressés, mais là, c'était trop... ça leur convenait pas, tout simplement. Et donc, je commençais un petit peu à perdre espoir en me disant, bah, finalement, sur Montpellier, vers qui je peux proposer mes travaux. Et je me souviens que c'était en avril 2018, j'ai passé un mois sur Paris pour démarcher toutes les agences artistiques, agences commerciales, bref, tout ça. Et j'étais hébergé chez mon pote d'enfance qu'on se connaît depuis l'âge de 4 ans. Et j'avais même le numéro de la responsable photo de Canal+. Et se faire envoyer chier par la responsable photo de Canal+, ça n'a pas de prix. Donc je me suis pris que des refus, que des noms. Parce qu'à chaque fois, je proposais... est-ce que vous pouvez me donner un avis sur mon portfolio?
Okay.
Il y a eu une seule agence qui a accepté de me rencontrer. Et effectivement, ils m'ont fait un retour sur mon portfolio très constructif. Par exemple, en disant, voilà, mets pas toute une série photo sur une seule page, mais maximum de photos. Il faut vraiment que les photos soient affichées en grand sur une page. Il faut que ça saute aux yeux. Et moi, indirectement, quand je disais, est-ce que vous pouvez voir mon portfolio, c'était... est-ce que je peux bosser avec vous?
Mais oui, c'est sûr.
Mais le truc, c'est qu'ils m'ont donné exactement ce que j'avais demandé, un avis sur portfolio, alors que j'aurais dû dire, voilà, je travaille avec vous. En vrai, j'étais que des refus. Et là, il y a mon pote d'enfance qui me relève en disant, bon, Ludwig, t'as testé cette aventure-là, franchement, bravo, parce qu'il y a très peu de gens qui le feraient. Mais c'est vrai que vu la situation actuelle, t'es pas encore connu, ton appartement est en vente. Bon, ça va, il n'est pas encore vendu, mais il faut quand même que tu assures tes arrières. Donc, c'est vrai que prendre un taf alimentaire, je sais, ça va te faire chier, mais prends-toi à mi-temps, et surtout un mi-temps qui ne va pas te prendre trop, pas trop te prendre le chou.
Ouais.
Donc voilà, il m'a remotivé, j'ai pris un taf alimentaire, c'était agent d'entretien où j'allais nettoyer les bâtiments. Même si j'avais le CDI avec ça, je gagnais bien. Je suis pas tout à fait heureux, mais ironiquement, c'est que ça m'a inspiré dans ma démarche, parce que quand tu te lèves aux aurores, tu vois le soleil se lever, tu vois l'effet de la lumière que ça donne, que tu allais dans les bâtiments, tu vois la lumière des couloirs, ou l'effet que ça fait avec les lumières qui traversent les bouches d'aération, ça te fait des stries. Donc j'observais beaucoup autour, et puis aussi c'est que j'ai vu que les gens faisaient du gâchis alimentaire, du gâchis matériel innommable. Moi, ça m'a vraiment fait réfléchir sur ma démarche écologique. Je trouvais que les gens jetaient beaucoup de choses, mais des choses qui pouvaient me servir, moi, pour créer mes décors. Donc, j'avais récupéré des paravents, j'avais récupéré des tables, des éléments de décor que j'ai utilisés pour une photo. Donc, c'était détourner des objets que tout le monde en a rien à cirer. Donc, j'ai fait ça pendant à peine un an. Et après, entre-temps, j'ai rencontré mon grand ami Romain Oulès. Alors, comment on s'est rencontré? Ça, c'est une belle histoire. Je devais réaliser l'affiche pour un festival d'effets spéciaux qui s'appelle Effet Star. Et on devait aller à Valence pour photographier les modèles. Ils ne pouvaient pas venir jusqu'à Montpellier parce que mon studio était trop petit. Et moi, j'aurais expliqué que moi, je n'ai pas la voiture assez spacieuse pour transporter ton matériel. Je vais avoir besoin d'aide. Et là, t'en fais pas, on va t'envoyer quelqu'un. Et ce quelqu'un, la Providence l'a envoyé, c'est Romain Oulès, que je connaissais déjà ses travaux, parle bien d'un copain en commun, mais on n'a pas eu l'occasion de vraiment discuter. Et là, on était dans la voiture, on discute, et tout d'un coup, il balance une réplique de film, c'était le chèque est déjà dans la boîte, sur quoi je réponds, tout est une question de réflexe. C'était, on citait du Jack Burton dans Grip de Mandarin, John Carpenter, puis là, c'est, on se regarde avec les grands yeux, c'est « Oh, toi, tu vas être mon copain !» Et il dit « Tu connais ce film ?» Je dis « Ouais, je l'aime bien et tout, super génial, les effets spéciaux, bah, l'humour, puis en plus, ça fait un peu film de kung-fu, enfin moi qui suis d'origine asiatique de par ma grand-mère qui est cambodgienne, bah, forcément, ça me touche, quoi. » Et ouais, trop bien, donc on continue de discuter, puis... il avait mis en musique, c'était la BO de Conan. Donc je dis, ah bah tiens, c'est la BO de Conan de Basil Poliédouris. Conan, c'est son film de chevet. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, moi, on va très bien s'entendre. Une fois arrivé à Valence, on fait le shooting photo. Donc lui, il voyait comment je bosse, et moi, je voyais comment il bossait, et on admirait toujours le taf de l'un et de l'autre. Et c'est comme ça qu'après, sur leur tour, il m'a dit, ouais, est-ce que ça te dirait qu'on bosse ensemble? Moi, je fais une documentaire qui s'appelle Derrière le masque, qui parle d'effets spéciaux du cinéma. Moi, franchement, je serais ravi de que tu m'aides sur la lumière. Je dis ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup tes vidéos. Ce serait un honneur pour moi de t'aider. Donc, il est venu tourner à la maison, et depuis, on a continué de collaborer. On a fondé le Hangar 84, et on se marre toujours autant.
Trop bien. Mais j'allais justement parler un petit peu de Hangar 84. Mmh. Comment ça vous est venu en tête de créer ça? Et est-ce que c'était pas difficile de le mettre en place? Parce que ça doit être pas mal de paperasse, pas mal de...
Ouais, c'est un beau parcours. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on l'a fondé. Donc Hangar 84, ça venait simplement d'une idée que on voulait vraiment avoir un lieu pour séparer le perso du pro. Moi, je travaillais dans mon ancien appartement, c'était trop petit, et lui, il bossait dans la maison de ses parents, donc on était tous à l'étroit. Et donc, on voulait justement s'associer pour trouver un endroit plus grand, et d'autres personnes qui y cherchaient aussi. Et pour le nom Hangar 84, c'était... il me dit, ouais, tu vois un peu la scène de fin du premier Indiana Jones avec le hangar avec tout plein de caisses, imagine que c'est une merveille dedans. Bah voilà, c'est ça. Et pourquoi 84? C'est parce qu'à cette époque-là, il y a plein de films qu'on aimait bien qui sont sortis à cette époque. Donc le premier Terminator et lui, je crois que c'était un autre film, j'en sais plus trop. Et c'est comme ça que c'est né, Hangar 84. C'est vrai qu'au départ, on était une quinzaine. Puis au fur et à mesure, on s'est retrouvés plus que deux. Parce que bah, ça ne convenait pas aux attentes des autres, ou bien ils n'avaient pas les épaules larges, soit ils pensaient que c'était une garçonnière.
Et vous comptez rester à deux ou l'agrandir avec d'autres, peut-être des streamers ou quoi, qui chercheraient des studios pour travailler aussi
Bah là, c'est qu'on est arrivé au point que, bah, avec l'expérience qu'on avait avec les quinzaines de personnes, c'est qu'on se marchait sur les pieds en fait.
Ouais.
Bah notamment s'il y en a qui fait un tournage, bah ça sacrifie la journée de l'autre, qui a envie de bosser tranquille, surtout que c'est pas encore insonorisé. Faut dire que le hangar, on a fait les cloisons à partir du décor récupéré. Donc par exemple, en fin 2021, il y avait le tournage de la série Underscore de Gilles Stella de Arles 236. Romain avait créé les décors, donc il avait créé des faux murs en béton pour faire un intérieur d'usine.
Okay.
Il ne voulait pas les récupérer, l'équipe de tournage. Bah, nous, on les a conservés pour faire nos cloisons. Mais on reste quand même ouvert de recevoir d'autres personnes ponctuellement.
Ouais.
Mais on a plus envie de rester entre nous.
Bah écoute, merci beaucoup. J'invite les gens, s'ils veulent en découvrir un peu plus sur toi, te suivre sur Twitch par exemple, où tu partages beaucoup de ton travail aussi, c'est assez passionnant. Si tu veux en parler un peu, n'hésite pas.
Bah ouais, grand plaisir. Bah, Twitch, c'était plus un moyen de lier l'utile à l'agréable, parce que faut pas se leurrer, la retouche, c'est un peu travail solitaire. C'est comme ça que j'ai quand même découvert beaucoup de films, parce qu'il faut bien s'occuper.
C'est sûr.
Et bah, c'est par le biais d'Avamind en fait que ça m'a donné envie de me lancer, parce que Avamind adorait les travaux de Romain, et elle avait, à cette époque-là, elle habitait sur Montpellier, et elle lui demandait ouais, est-ce que ça te dirait de faire une démonstration de make-up en live. Et Romain dit ouais, pas de soucis, bah, moi j'ai une idée pour toi, ce serait de te transformer en Doom Girl, parce que c'est le pseudo qu'on donnait à Avamind, parce que c'était la seule joueuse de Doom. Et Romain m'a dit ouais, viens avec moi, comme ça tu vas pouvoir filmer, faire le making of, puis aussi photographier ma création une fois faite. Donc une fois arrivé là-bas, on arrive, en plus c'était une petite pièce, et en fait je voyais pas trop d'un bon oeil le Twitch, parce que bon, je connaissais pas le truc. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit des gens qui soient assez énervés.
Ouais.
Un peu comme Twitter, tu vois. C'est liberté d'expression, mais pas la bonne manière. Et genre, un monte à Ava qui me prend à part. Ah, est-ce que tu veux parler de tes travaux, Ludwig? Ah ouais, bah, écoute, je fais ça. Et les gens qui étaient curieux. Et après, c'est que j'ai reçu des conseils de proches qui me disaient « Franchement, tu devrais faire des live Twitch de tes retouches photo. » Parce que je pense que ça devrait intéresser les gens. Donc moi, au départ, qui me disais « Ouais, mais j'ai quand même peur qu'il y ait des gens qui plagient mes travaux, si je leur explique comment c'est. » Après, on m'a dit « Ouais, tu sais, toujours copier, jamais égaler. » Donc, très bien. Donc là, je me suis lancé. Et je trouve qu'il y a eu, des bons retours. Les gens étaient curieux. Donc, moi, je suis toujours partant pour aider les gens quand ils me demandaient des questions, genre bah comment tu fais ça, bah tu peux le réaliser de telle manière, d'une autre manière, ou même sur le plan professionnel. Je sais qu'il y en a un qui me demandait ouais, mais comment tu fais les démarches, etc. Je dis bah va plutôt vers telle personne, tu leur demandes tel papier. Bref, c'était échange de conseils dans la bienveillance, c'est de l'entraide.
Trop bien.
Et donc au départ, c'était que de la retouche, parce qu'on n'avait pas la fibre optique à notre lieu de travail. Et là, depuis le mois d'octobre, on l'a enfin eu, au bout de 3 ans d'attente. Et là, on avait vraiment envie d'innover en termes de concept. Et là, j'avais envie de faire justement un shooting photo en live. Donc, c'était un peu moyen pour dire, voilà, vous avez tellement bassiné, quand est-ce que tu fais un making-of, etc. Je veux bien faire un making-of, mais le problème, c'est qu'il faut avoir les gens disponibles, etc., leur prendre un créneau horaire. Mais le truc, c'est que mes shooting photos sont parfois réalisés à dernière minute. Je me dis, bah, là, si je le fais en live, là, vous pourrez voir comment se déroule de A à Z. C'est comme si vous étiez avec moi. Donc, vous pourrez voir les moments où on fait des super photos, des moments où ça foire un peu et on se dit, bah, comment on va gérer ça? Et comment je dirige le modèle, puis comment aussi on va réagir aux photos qu'on a faites. Donc c'est ça qui était marrant, parce que sur le premier live de shooting photo, c'est que j'uploadais les photos faites du shoot, et je montrais, bah voilà, vous voyez les photos là, donc on a fait une centaine, et sur une centaine, il y a juste une dizaine qu'on va retenir. Donc c'est histoire de un peu désacraliser un peu
ouais,
le métier.
C'est clair.
Parce que quand on voit les making-of, on ne montre que les meilleures parties. On ne va jamais te montrer les moments où ça foire, les moments où on est en train de réfléchir. On dit, mais comment on va faire, etc.
Là, tu les as plongés en plein dans l'envers du décor, quoi. Il n'y a pas plus...
Ouais, voilà, c'est ça. Et je m'en souviens aussi, c'était pour les photos d'Atome, un autre vidéaste que tu as reçu sur ton podcast. Donc, j'avais fait des photos de lui un peu plus tôt, en 2022. Et je lui ai demandé, est-ce que tu serais d'accord que je fasse un live de la retouche de tes photos? Il me dit, ok, pas de souci, bah, tu me dis, de toute façon, moi je serai à l'hôpital à la suite d'une opération, donc j'aurai tout le temps pour. Et donc je fais le live, il était là, et donc il a suivi plus ou moins tout le long, parce que c'est vrai qu'au bout de 3 heures, tu n'as pas tout suivre. Et après, quand je l'ai revu, il m'a dit, ouais, c'était franchement super intéressant, parce que ça m'a vraiment fait découvrir bah, comment se déroule en fait une retouche photo. Je pensais pas que tu travaillais des couleurs, que ça se passait comme ça. Donc bref, tu éduques les gens à ton métier en quelque sorte. C'est bah, pas genre tu appuies sur un bouton, alors certes si, mais il y a quand même de la préparation en amont.
C'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup. J'invite en tout cas les gens à découvrir ton travail sur tous les réseaux sociaux, dont Twitch. Et merci encore pour ta confiance et ce chouette échange.
Bah, c'était un régal. Merci beaucoup, Margot. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup, beaucoup.
Ah, mais c'était passionnant.
Voilà, entre 2-3 conneries, je dis des choses intelligentes.
Mais merci,
merci beaucoup. C'était un véritable plaisir.
Merci. C'était Margot en compagnie de Litnim pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.